Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, nous allons analyser le Monday Night Raw du 9 décembre. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et pour en parler, j'ai avec moi Chris. Salut Chris.
Salut les gars, salut peuple de Catch Up.
Et on change pas d'équipe qui gagne puisque Kyrias est là également.
Salut à tous. On est bienvenue en mode... dans Catch Up.
On est en mode trios à la mexicaine.
C'est vrai que les Mexicains, ils ont un truc avec ça, trios quoi.
Ah bah il y a carrément des ceintures trios championship.
Est-ce qu'on verra ça un jour à WWE, des ceintures trios? Non, bah, parce qu'il y a la Freebird Rules, donc c'est un
peu... Voilà, il y a Freebird Rules, donc il y a eu quelques équipes comme ça qui ont tourné à 3 avec le titre. Ça, c'est vraiment un truc spécifique au Mexique, ça.
Ah, les spécificités mexicaines.
Voilà, ça... si, seigneur.
Si, seigneur. Bon, pas de Mexicain dans cette intro.
Non.
Opener demandé Nitro. Au contraire, c'était très sérieux. Tout le monde était habillé en noir. Bon, il y a une petite touche de l'originalité avec Rousseff qui arborait un magnifique t-shirt Donald Duck.
Oui.
C'était visiblement un fan de Walt Disney. Ce soir, on a tout simplement une affaire de divorce. Donc, c'est une histoire d'amour qui se termine mal. C'est assez triste quand même pour ouvrir un show. D'autant plus triste que c'est Jerry Lawler qui s'en occupe. Donc, je sais qu'à Catch Up, nous ne sommes pas très nombreux, si ce n'est pas du tout, à apprécier les qualités du King, hein, du roi qui. Qui a l'air de s'être fait piquer par un essaim d'abeilles à chaque fois qu'il apparaît. Hein. Il est tout gonflé, hein, tout bouffé, Jerry Lawler.
À la Jericho.
C'est un truc avec les Jerry, je pense. Jerry Lawler, les Jericho, ils sont tous bouffis. Donc il va présider tout simplement cette instance de divorce. L'ordonnance qui interdit Rousseff de s'approcher de Lana a été temporairement désactivée. Le temps de la soirée, c'est vrai que c'était complètement con en fait finalement d'avoir fait ça et de vouloir signer les papiers de divorce, c'est pas pratique. Rousseff arrive, il a l'air plutôt heureux, il était assez taquin, hein, assez joueur Rousseff tout au long de cette séquence. Donc les fans sont toujours derrière lui, Lana est là, avec son avocat évidemment. Elle explique qu'avant, elle aimait Rousseff, mais c'est les fans qui ne l'aimaient pas. Rousseff n'est qu'un... est un égoïste, il ne pense qu'à lui-même et à sa célébrité. Lana reproche hein, aux fans d'être la cause de la faillite de leur mariage. Et Rousseff nous balance quelques images de la semaine dernière. On s'envoie des noms d'oiseaux. Rousseff donc s'apprête à signer le papier, donc il fait allez c'est bon on s'en fout, ça commence à être chiant cette histoire.
C'est vrai.
Ce qui est vrai, ouais. Je sais plus comment il sort ça, mais genre ouais tout le monde s'en fout, ça commence à vraiment être pénible cette histoire. Bah oui effectivement on est d'accord. Sauf que Lana non c'est moi qui vais signer en premier, voilà ça je chamaille. Ça se bat aussi autour de la garde du chien visiblement. Quelqu'un a offert un chien à quelqu'un d'autre, je crois Lana a offert un chien à Rousseff.
Oui pour son anniversaire je crois.
Joyeux anniversaire, Rousseff. C'était un Rousseff Day, j'imagine.
Sûrement, oui.
Ouais. On parle encore évidemment de l'obsession sexuelle de Rousseff. On en remet une couche. Rousseff veut coucher partout. Lana ne voulait pas coucher partout. Ce que Rousseff veut, en fait. Et finalement, c'est à la limite la seule chose qu'on veut, nous aussi. C'est un match entre deux gorilles, à savoir un match entre Rousseff et Bob Lashley. Bobby Lashley débarque. Il explique qu'il va demander en épousailles cette chère Lana. Rousseff, il en a rien à foutre. Et Lashley attaque ce dernier au moment de la signature du contrat. Ça se termine sur un beatdown et tout ce beau monde se retrouvera à TLC pour en finir, on l'espère,
enfin
une bonne fois pour toutes. Chris, tu hurles enfin.
Putain, quelle merde ce truc, mais quel truc. Moi, ça, c'est. Non, mais on ouvre Raw avec ça, quoi. Non, mais ça, c'est un truc à la rigueur. Première heure, bon, on nous place ça pendant 10 minutes, le temps pour nous d'aller aux toilettes et tout ça. Ça passe. Vraiment, nous coller ça en opener de Raw après le SmackDown qu'on a vécu. Puis non, je dis non, c'est pas possible de nous mettre une bouille pareille, quoi. Bon, le seul peu. À la rigueur, là où je te rejoins, IRM, c'est qu'il y a eu des moments un petit peu drôles avec le Rousseff un peu en mode ranafoot. Et puis Alana en mode il veut du sexe. Et moi, j'ai envie de lui dire, à chaque fois qu'il dit ça, Alana, j'ai envie de lui dire, bah ouais, mais bon, c'est. Je peux le comprendre, Rousseff Matchka, quoi, merde, quoi.
Qui n'en veut pas.
Qui n'en voudrait pas du sexe dans des conditions pareilles, quoi. Mais c'était vraiment. C'était tellement mauvais, quoi. Effectivement, tout ça pour que la finalité, ça soit le match entre Rousseff et Lashley. Moi, ce qui m'intéresserait surtout de savoir, c'est qu'est-ce que vont devenir Rousseff et Lashley une fois que cette feud sera terminée, quoi, parce que j'aimerais bien.
Oula, ça s'appelle du très très long terme, la WWE, on n'aime
oui,
pas ça.
Je sais bien, je suis complètement à la ramasse avec ça, mais qu'est-ce que tu. C'est voilà, quoi. Enfin bon, après la bouffe pour chien avec le Roman Reigns, maintenant on a le droit au divorce géré par Jerry Lawler. Oh my god!
Ok, Rias, comment tu as vécu ce moment douloureux?
C'est vraiment dans la douleur. Il faut savoir que dès le début de cette histoire entre Lana, Rousseff et Lashley, moi j'ai tout simplement annulé mon abonnement au network.
Ah, c'était pour ça, je me souviens, dans le Discord en interne, il avait balancé, ouais, les gars, je suis désolé, je vais me mettre un petit peu en pause, là, je viens d'arrêter, bon, je me désabonner, c'était à cause de ça.
Ah ouais, non, mais ça a été le pompon, quoi.
Moi, j'ai jamais... droit dans ses bottes, Kyrias. Hein.
Ah ouais. Du sérieux, là.
Pousse ses couilles.
Ouais, non, ça, c'est pour dire que ce genre de segment, je les apprécie vraiment pas du tout. c'est vraiment, pourquoi encore, quoi? Pourquoi on nous affiche ça, quoi? On veut du catch, des trucs rigolos, quoi, pourquoi pas, mais pas ça, quoi.
Ouais, à la limite, enfin, bon, c'était, en fait, tu mettais un truc, ça, plus court, ailleurs qu'en opener.
Ouais.
Ok, ça, voilà, ça a un segment, t'aimes ou t'aimes pas, c'est du vaudeville, ça vole pas haut, mais voilà, on ne peut pas ne pas avoir ça, à la WWE, mais là ça occupe tellement d'importance et surtout c'était long et surtout t'avais l'impression de retourner en arrière quand on nous rebalançait histoire de Rousseff c'est un obsédé sexuel alors qu'on était déjà passé à autre chose, les mecs se sont déjà mis sur la tronche en fait, Rousseff et Bobby Lashley, on sait qu'ils veulent se mettre sur la tronche, donc pourquoi refaire ce segment où, en fait grosso modo on nous recommence tout depuis le début, c'est une espèce de best of ou de worst of des 6 dernières semaines, quoi. Là c'était genre, regardez, vous vous souvenez que Rousseff c'était un obsédé sexuel, vous vous souvenez que Lana c'était une grosse psychopathe, et ben non, bah regardez, et si t'avais l'impression de regarder, voilà, l'espèce de condensé mais long, un long dansé de cette storyline.
Ah, c'était long.
Ça durait plus d'un quart d'heure, hein, j'ai regardé ma montre. Tu te rends compte? Ce qui est plus que, genre, cumulé au moins 4 ou 5 des matchs qu'on aura eu dans la soirée, quoi.
Ouais, ce qui prouve bien à quel point les créatifs ne sont pas créatifs par moment à la WWE. Hein.
Ouais, effectivement.
Attends, ils sont récréatifs, mais ils font pas, a priori, les beaux jours.
Par contre, je les félicite pour être un expert du divorce. Je les félicite totalement de gérer un divorce en 15 minutes. Il faut qu'ils viennent nous donner des leçons en France parce que chez nous, c'est plutôt entre 6 mois et 2 ans. Quoi.
Bon, bah, on va pas se plaindre.
À mon prochain divorce, eh ben, j'irai à la WWE pour régler tout ça.
Ah là, c'est une feud au long cours, là. Deux ans de rivalité avec Chris.
Je ne suis pas prêt.
Bon, du catch, messieurs, il y en a quand même eu, il y en a eu beaucoup, on en parlait juste avant, il y a eu 8 matchs en tout, 8 affrontements, on va passer assez rapidement sur la plupart de ces courts matchs, tout en donnant un petit peu nos avis, puisque grosso modo, l'idée c'est un peu toujours de nous montrer, de mettre en lumière, on va dire, qui va être un petit peu au top des programmes dans les mois qui viennent, et on gardera la grosse storyline avec Kevin Owens pour après. Alors, dans l'ordre, on a eu un match entre Drew McIntyre et Matt Hardy. Un Matt Hardy qui revient avec un gimmick, une sorte de résumé de tous ces gimmicks, j'ai l'impression. Hein, puisqu'on a droit à Matt Hardy Hardy Boys. Je me demande s'il n'y a pas un peu de Matt 2.0. Et puis, il nous fait des chants d'élite. Il a sa mèche blanche, là. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit best-of de toutes les gimmicks de Matt Hardy. Ça ressemblerait presque à un tour d'honneur, mais j'ai l'impression qu'il fait des tours d'honneur tous les ans, là, Matt Hardy. Drew McIntyre était là et Drew McIntyre il a claqué quand même, il s'est quand même donné un peu de peine. Il y a des mecs comme qui travaillent leur sujet avant de venir pour essayer de nous vendre ce match où il a dit effectivement que mesdames et messieurs, Matt Hardy est un nouveau papa puisque un nouveau fils est arrivé, un nouveau prince est arrivé dans la famille Hardy. Ils se connaissent depuis longtemps, mais Matt Hardy a fait quand même des mauvais choix en dehors du ring et se reproduire ressemble à un de ses mauvais choix. Du coup, il propose à Matt Hardy de partir, quoi, de le laisser partir tranquillement avec son fils plutôt que de se faire ridiculiser. Matt refuse et il se prend une grosse branlée.
Mais il a raison, ce Drew McIntyre. Matt Hardy, il est fini, il est mort, il est cuit. Non, mais vous avez vu dans quel état il est, finalement, les gars, là.
Tu dois le croiser souvent à la cantine de l'EHPAD, non?
Mais ouais, non, mais Matt, c'est un des aficionados de l'EHPAD, quoi. Hein. Il se place en chaise roulante, hein. Il n'y a que pour Raw où il se lève de sa chaise. Mais sinon, sorti de ça. Quoi. Non, mais le mec, il a les deux genoux en vrac, il a le dos en vrac, il a les épaules en vrac. Ce gars, c'est une momie vivante, quoi.
Bon, c'est peut-être son tour d'honneur, là, Kyrias. Là, c'est
place aux jeunes, ouais, c'est ça, ouais. Il met en valeur les petits jeunes, Drew McIntyre, ça fait un moment qu'il est là maintenant. Mais je préfère voir, McIntyre mis en avant par Matt Hardy, ça lui donne un peu de star power. Le Claymore a encore bien été utilisé, donc comme arme fatale.
J'étais assez étonné parce que il nous a teasé un Claymore kick out of nowhere. On l'a toujours pas eu. Hein,
kick
out of nowhere de Drew McIntyre dans sa petite rivalité annexe avec Randy Orton. Donc j'attends de voir. Moi, elle m'a bien teasé ce début de rivalité entre Orton et Drew McIntyre. J'espère qu'ils n'en resteront pas là. Un autre match. Pour mettre en avant les stars de demain, Aleister Black affrontait Akira Tozawa dans un match court avec un Black Mass à la fin. Akira Tozawa est donc mort entre les cordes. Voilà Aleister Black qui cherche la bagarre et qui a enfin trouvé la lumière et qui dorénavant nous propose un match chaque semaine. Finalement, il a enfin trouvé la porte. Il a compris comment ça fonctionnait à la WWE, j'ai l'impression.
Ah, il aura mis le temps. Ouais.
Effectivement. Ah,
il galère, Lister. Hein. Là, franchement, il est dans une galère, quoi. Mais bon, finalement, il nous tease une rivalité avec Buddy Murphy, qui est peut-être la meilleure des choses qui puisse arriver, quoi. Mais ouais. je suis tellement surpris par le traitement d'Alister Black, de toute façon, depuis son arrivée dans le main roster, que maintenant, je m'en étonne même plus. Hein.
Ouais, Buddy Murphy qui a eu un match également, il a disposé de Zack Ryder. Voilà, pareil, dans un match qui a duré 2 minutes, Murphy Lowe. Donc effectivement, ces deux bonhommes vont quand même croiser le fer là à TLC. Est-ce que c'est une affiche qui t'intrigue, qui t'intéresse, Kyrias?
Ah, tout à fait, ouais. On les a vus à NXT nous donner des bons matchs les deux là, et Buddy Murphy est en belle forme. Il a l'air d'en vouloir en ce moment. Donc, s'ils peuvent nous laisser quelques minutes plus que peut-être une bonne quinzaine de minutes entre les deux, ça peut être pas mal, quoi. Il faudra voir le temps qu'on va leur laisser, mais Aleister Black et Buddy Murphy, ils en ont sous la pédale pour un match de pay-per-view.
Effectivement, ouais. C'est on aura un petit peu de lumière pour ces hommes de l'ombre.
Ouais, c'est un match qui a du potentiel, hein, en soi. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien en jeu, quoi, derrière ça, quoi.
Ah ouais.
C'est de la low card, quoi, sans enjeu particulier. C'est un petit peu ça qui me dérange, quoi. Voilà, quoi. C'est un petit peu lower, ce truc, quand même, quoi.
Ouais, je sais pas, il y a quand même. Enfin, toi, t'as. Bon, voilà, Buddy Murphy, c'est un mec sûr de lui, qui se la pète. Il est allé toquer à la porte de Aleister Black. Voilà, maintenant c'est deux mecs qui veulent montrer qui a la plus grosse, quoi, qui mérite vraiment le futur spotlight. Donc ça suffit, toi, il n'y a pas forcément besoin de. Tu aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'enjeu dans ce match, dans
cette Ouais, un peu de l'enjeu, pas forcément dans le cadre d'une ceinture, mais déjà au moins on a une petite stipulation, tu vois, on est à TLC, là on arrive sur un pay-per-view spécial. Et c'est ce qui me dérange un peu dans le booking de Spectre depuis le début, c'est que ça manque un peu de, tu vois, ça manque un peu de stipule, ça manque un peu de... Voilà, ça. Donc du coup, Alistair Black, Buddy Murphy, vu la qualité des deux molos, là, c'était l'occasion de faire un truc un peu sympa, quoi.
Bah, ils auraient pu faire, toi, comme là, ils avaient une sorte de... Ils auraient pu construire, là, on avait un petit peu ça, finalement, une sorte de rivalité parallèle où les mecs... se lance des défis, genre ah bah cette semaine c'est moi qui vais gagner le plus rapidement possible par exemple, toi, ou alors cette semaine tu vas voir mon finisher va être le plus fort, ou toi, se lancer des petits défis en parallèle pour à la fin arriver enfin à un match entre les deux avec une stipulation un peu compétitive aussi, toi, entre les deux mecs, toi, qui aurait pu être pas forcément alors du coup c'est pas forcément lié à TLC, mais tu peux pas avoir des tables et des chaises dans chaque match, mais une petite stipu, ouais, peut-être qu'aurait pu être sympa. Mais bon, après, c'est le problème avec ces pay-per-view à thème, là. Toi, il n'y a jamais de bon moment pour lancer des nouvelles rivalités quand tu arrives à TLC, en fait. Et le problème, c'est que c'est exactement ce qui se passe. On lance plein de nouvelles rivalités juste avant TLC. Et, en fait, c'est antinomique, quoi, parce que TLC est censé être dans une avancée, toi, assez... un stade assez avancé justement d'une rivalité où on commence à sortir les stipulations. Là finalement on se retrouve avec plein de matchs qui vont être des first time où on est obligé de rajouter un peu des stipules. Donc c'est un peu compliqué à gérer leur histoire. Allez, on va revenir à quelque chose. Je sais pas si t'as fait plaisir, Chris. On parlait de Mexicains là. On a eu un match entre Andrade et Humberto Carrillo, puisque Zelina Vega était... Il y a eu une petite séquence interview backstage, et puis Andrade n'a pas aimé comment Humberto Carrillo a parlé à Zelina Vega, je crois. C'était une petite embrouille de ce style-là.
Ouais, enfin, l'embrouille, elle a eu surtout lieu entre Andrade et Vega. Ouais, ils se sont engueulés, hein, les deux. Hein. Là, on parlait de divorce.
C'était après le match.
Ah, c'était après le match, ouais, c'était après le match. Ouais.
Là, je te parle de qu'est-ce qui a mené à ce match-là. Je crois que c'est Humberto Carrillo a parlé mal à et ça s'est retrouvé sur le ring dans un match qui lui a au moins le mérite de durer plus de 10 minutes, un match évidemment très technique entre les deux, et Zelina Vega, effectivement, tu l'as dit, Chris, tu l'as teasé, en tout cas à un moment donné il y a un spot avec Carrillo qui contre un dropkick, Vega qui est dans les cordes, et Andrade, bah, il doit éviter sa manager, et du coup Carrillo en profite pour un petit roll-up, il me semble, non, pour la victoire.
Ouais.
Un petit roll-up, et du coup, bah, victoire de Humberto Carrillo sur Andrade, qui enchaîne les victoires avant de se taper toujours une petite défaite out of nowhere. J'ai l'impression d'être un peu dans une boucle là pour Andrade. Qu'est-ce que t'en penses, la Chris, toi, qui est un grand fan, hein, du bonhomme?
Ah ouais, Andrade, c'était quelque chose avant son arrivée à WWE, à NXT, il a fait un run fantastique, quoi. Moi, j'ai adoré tout son run à NXT. Bon, un peu l'image d'Alistair Black, je suis un peu déçu de son traitement dans le main roster, mais pour moi, ça reste une valeur sûre. Mais moi, j'ai été surtout intrigué par ce qui s'est passé à la fin, pour le coup. Donc, par cette engueulade là avec Zelina Vega, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que t'es juste sur l'instant, ou est-ce que ça nous annonce peut-être un petit peu une forme de divorce, un nouveau divorce à la WWE?
Jerry Lawler, vite.
Oui, ramenez-nous Jerry. Et du coup, je suis assez curieux. Pareil, je sais pas où ça va mener, mais c'est pareil. Bon, Humberto Carrillo, pour l'instant, je suis un peu sceptique sur le jeune homme, mais justement, je lui laisse le bénéfice du doute du fait qu'il est jeune et qu'il a encore du temps pour se former, quoi.
Oui, il a l'air d'en vouloir en plus. Il a l'air très motivé, ce garçon.
Ouais.
Kyrias, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre entre les deux, là?
Oui, effectivement, Carrillo, il est encore un peu green, mais il tente pas mal de trucs dans les cordes qui n'ont pas l'air très facile non plus. mais c'était plutôt diversifiant, mais divertissant. Pardon.
Ah, ça peut être les deux, mon capitaine.
Aussi, ouais.
Les mecs, on les a jamais vus l'un face à l'autre, je crois. Donc.
Ouais, non, c'était une bonne rencontre. Andrade, ouais, pareil, je suis assez intrigué, par le début d'amorce de Bisbee entre lui et entre Andrade et Vega. Donc pourquoi pas. On va voir ce que ça donne.
Ça vous fait un peu peur, justement, ce teasing de mésentente entre les deux, parce que clairement, Zelina Vega fait un boulot formidable pour Andrade. Andrade, enfin, c'est un couple qui fonctionne super bien. Et,
ah oui.
Et finalement, ils ont toujours rien fait. Ils ont jamais. Ouais, c'est ça, ils retournent toujours un peu à la case départ à chaque trimestre. On a toute une série de matchs Andrade très compétitifs. On l'envoie au casse-pipe, si je puis dire, parce qu'il s'en sort toujours avec des super matchs et il tire des super matchs de ses adversaires, que ce soit contre des jeunes, que ce soit contre des vétérans. Il enchaîne toujours les super prestations et parfois même des grosses victoires. Et à la fin, il se fait toujours avoir. Il finit toujours par avoir une défaite un petit peu en mode upset, comme là on a eu face à ce petit jeune. Et finalement, on n'a jamais vraiment testé Andrade et Zelina dans une vraie storyline. Donc, est-ce que c'est pas dommage d'amorcer déjà une dissension entre les deux ? Est-ce que ça risque pas de porter préjudice à ce couple, Chris ?
Ouais, alors après, il y a peut-être l'affaire. C'est la femme de Mr. Black. Et peut-être que Aleister Black, il en a un peu marre de voir Andrade traîner tous les lundis avec sa femme. Donc, je sais pas, ça va peut-être nous amener à un truc entre Andrade et Aleister Black. Non, moi, ce qui me pose surtout le souci avec Andrade, c'est que moi, j'aimerais le voir dans la title picture, quoi. J'aimerais le voir lutter pour le titre US. J'aimerais le voir dans des title shots. Voilà, je sais pas forcément quelle ceinture exactement, mais j'aimerais le voir plus haut dans la carte, quoi. Pour l'instant, bah, tu l'as bien dit finalement, pour l'instant, il reste, il fait des grosses perfs, il est solide et tout, mais il reste dans de la low mid-card où pour l'instant, il s'y passe pas grand-chose, quoi. Il est un peu dans le ventre mou de la WWE. Et c'est dommage parce que moi, je crois que ce mec, il a un vrai talent, quoi, et que s'il était utilisé dans le roster comme il était utilisé à NXT, je pense qu'on n'aurait pas fini d'en causer du Andrade.
Et toi, alors, Kyrias ?
Ouais, je pense que c'est temporaire la mésentente entre les deux, entre le manager et son poulain, parce que Zega, je sais pas si Andrade a le niveau au micro pour rivaliser avec d'autres bons orateurs. De la WWE.
Ah, c'est mort.
Mais Zelina fait bien le boulot pour lui, du coup, donc ça serait dommage de les séparer tout de suite. Mais oui, effectivement, il pourrait mériter d'être plus haut comme personnage. Il n'a pas encore eu de gros push auprès d'une ceinture qui puisse l'établir comme une vraie menace, quoi.
Ouais, c'est toujours ce problème à la WWE de trouver la star latino qui va succéder à Rere, quoi. Parce que, d'ailleurs, la preuve, hein, Mysterio, actuellement, il est dans un gros momentum, mais parce que la WWE, il n'y arrive pas, hein, avec cette fameuse star latino, quoi. Elle ne le trouve pas pour l'instant.
Pourtant, elles sont là, ces stars. C'est à eux aussi de les créer. Ils sont très largement responsables de cette situation. Alors, si, effectivement, le fait que Andrade pipe pas un mot en anglais, pour eux c'est un nono, effectivement, dans ce cas-là il faut passer à autre chose, mais justement Zelina Vega faisait le boulot pour le rendre over, et c'est vrai que c'est dommage de passer autant à côté de ces mecs, ce type de mecs là. On va voir ce qui va les attendre, mais effectivement, il y a À la recherche de la nouvelle star latino. Une émission présentée par Chris, peut-être.
Voilà. Ouais.
On recherche aussi des nouvelles stars dans la division tag team, tiens. Puisqu'on a eu un open challenge lancé par les Viking Raiders. Je ne sais même plus, est-ce que c'est un match pour le championnat ? Ouais, c'est un match pour le championnat, il me semble.
Pas forcément. Le Raiders Street Profits. Ah mais ouais, c'était un open challenge, hein. Donc c'était un.
Oui, c'est ça, oui.
C'était un tag team championship, tout à fait.
Eh ben, qui a répondu ? Tu l'as dit, les Street Profits qui sont arrivés par les gradins, par les gradins, qui font un détour par les gradins, les travées comme à leur habitude avec leurs petits gobelets rouges. Vous avez vu, il a même un collier avec des petits gobelets rouges.
Montez
Ford. ce mec est complètement fou, hein, Montez Ford. Je pense qu'Angelo Dawkins, des fois, il doit se dire, mais c'est qui ce mec avec qui je suis, quoi. Je vais rester parce que grâce à lui, je suis dans la lumière. Mais le mec, je pense qu'il finit les rails de coke de Ric Flair, hein, parce qu'il est en feu, Montesford. Alors, le match n'aura pas duré longtemps. Je crois, messieurs, que c'est un peu le reproche que vous allez faire. Ouais. Mais il y a une intensité et surtout, il y a... Bah, ok, les Viking Raiders, ils sont à côté de la plaque en termes de booking. C'est pareil, c'est un peu comme tous ces mecs de NXT, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais les mecs, là, les quatre, là, ils s'étaient taqués dans ce match. Il y avait de l'intensité. On s'est fait un petit check à la fin. Les Viking Raiders ont gagné. Enfin, une belle petite victoire contre des gars qui ne sont pas des non-names. Mais quelle intensité, là, en 5 minutes.
Ouais, c'est bien dommage que ça ait duré que 5 minutes d'ailleurs, quoi, hein, parce que il y avait un gros potentiel dans ce match-là. Moi, j'étais super happy. Hein. Déjà, voir les Viking Raiders proposer un open challenge, c'était l'assurance que pour une fois, on n'allait pas avoir de jobber, vu qu'ils sont abonnés aux jobbers, les Viking Raiders. Et quand j'ai vu que c'était les Street Profits qui débarquaient, je me suis dit, putain, ça va être bon, ça! Et puis 5 minutes après, je dis, ah, c'est déjà fini, putain! Donc, donc c'était un petit peu dommage que ça se termine comme ça, quoi. Et puis voilà, du coup, deux équipes face, donc qui à la fin se félicitent mutuellement et tout ça. Donc tout ça, c'était un bel esprit. Donc c'était plutôt bien. Trop court, mais bien.
Et du coup, quel est le programme pour les Viking Raiders pour TLC?
Un open challenge. Ah si si, non mais je suis sérieux. Hein. Ça a été annoncé ce matin.
Un open challenge pour les Viking Raiders.
Voilà.
D'accord. Eh bien. Les mecs n'ont vraiment aucune inspiration, c'est dingue.
Je sais pas où tu trouves une.
L'open challenge, c'est vraiment genre dire bon, c'est vraiment pas quoi mettre. Alors Vince pourra décider vraiment au dernier moment. De toute façon, c'est ce qu'il fait. Mais là, il pourra vraiment légalement décider au dernier moment qui l'envoie. J'imagine bien toutes les tag teams de Raw et de SmackDown et de Maubeuge et j'en sais rien qui attendent dans la gorilla position là, et Vince qui fait ce sera vous. C'est dingue de ne pas avoir un vrai programme pour ces mecs là, mais bon.
Ah ouais, c'est bien triste.
Ouais, ce sont les champions hein, pourtant, et ils ont rien comme programme.
Pourtant, c'est triste, je crois que ça faisait longtemps, enfin. Il y a rarement eu autant de talent dans les divisions tag team. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a quand même une belle division tag team à travers les trois shows. Et c'est incroyable de se dire que les mecs n'arrivent même pas à lancer une storyline, un programme quoi pour ces mecs-là, quoi. Qui en plus, une fois de plus, en ont conscience, puisque même dans leurs promos, ils en font référence, quoi, en disant grosso modo, pour l'instant, on nous envoie du menu fretin, nous on la guerre. Donc, ok, même ce combat-là face au Street Profits, c'est cool, ça nous met le sourire et il y a une grosse ambiance et tout, mais c'est, je dirais presque, c'est le minimum pour ces mecs-là, quoi, des Viking Raiders. Donc, à voir, une petite piècette là sur l'Open Challenge, Chris, d'après toi, qui pourrait répondre à...
Pour moi, ça va être du bis repetita, hein. Je pense qu'on va avoir gros Street Profits.
D'accord, ok, tout simplement. Bon, voilà, dans un match de 4 minutes au lieu de 2.
Ouais, voilà. Je pense à Zee aussi, moi, plutôt.
Ah, pas mal, hein, j'avais pas pensé à eux, tiens.
Mais oui, les fameux, ça c'est... On en a déjà parlé, mais... Les mecs ont un ego de ouf, ils adorent dire, regardez, on est la meilleure tag team du monde, on a un trophée pour le prouver. Ils en font rien. Ils ont tous les outils, ils ont tout ce qu'il faut pour écrire des programmes... de weekly, hein, c'est incroyable qu'ils n'y arrivent pas. Ouais, effectivement, on aura l'air bien si c'est ni l'un ni l'autre.
Je veux dire, à TLC, c'était pourtant un truc à booker facile, quoi. Tu faisais un TLC match avec les Street Profits, les aussi et les Viking Raiders. Putain, là, t'as un match là, mais t'as un match de furieux là.
Tu sais quoi? Et pourquoi pas, ce serait pas mal qu'ils fassent ça à TLC. Open Challenge et les deux équipes arrivent en même temps.
Ouais.
Ils aussi, et ils arrivent exactement en même temps, et du coup, ça devient triple frite. Voilà.
Pourquoi pas.
Bon, allez, faut croiser les doigts. En général, ils arrivent toujours à s'en sortir en pay-per-view. Ils font de la merde en weekly, et puis en pay-per-view, ils arrivent à retomber sur leur pied. On sait toujours pas ce qu'il y a dans la cage d'Eric Rowan.
Non.
Malgré le fait que le jeune jobber local s'est sauvé, il est allé sous le titantron, il a volé la cage, il est parti avec, et du coup, il a essayé de provoquer des comptes à l'extérieur, mais Eric Rowan lui a botté les fesses. Bon, voilà.
J'ai trouvé ça pas mal, le jobber, là.
Il est un moins con que les autres, celui-là. Hein.
Ouais, un peu moins. D'habitude, on a les jobbers locaux, là, on a toujours droit à des abrutis finis, quoi. Et là, pour une fois, on a un mec qui a tenté un truc, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Et d'ailleurs, c'est malheureux, j'aurais même aimé citer son nom à l'antenne, mais bon, même son nom n'a pas donné au début du match.
Le pauvre.
Qu'on voyage dans le temps là, depuis tout à l'heure. Alors, Kevin Owens, ça arrive, hein, mesdames et messieurs. Juste avant, on va parler de la division féminine avec Charlotte et Becky qui se mettent d'accord. Enfin, c'est pas ça. Il y a d'abord un peu de compète, puisque Becky Lynch et Charlotte se croisent. Et Becky Lynch dit, elle parle du match de Charlotte la semaine dernière où effectivement elle a failli battre les Kabuki Warriors. Et Becky Lynch dit, attends, moi, je vais y arriver, moi, cette semaine. Donc, on a un match de Becky Lynch contre les Kabuki Warriors. On nous refait un peu la même chose avec, effectivement, une championne qui résiste, qui, à plusieurs reprises, manque vraiment de gagner. Et c'est à la faveur d'une disqualification d'Asuka qui sort la chaise que Becky Lynch donc, remporte ce match donc, via disqualification. Un petit peu plus tard, rencontre entre Charlotte et Becky. Becky lèche ses plaies, et Charlotte est avec elle, elles se mettent d'accord, elles ont un ennemi en commun. Elles se détestent cordialement, mais elles ont un ennemi en commun, les Kabuki Warriors, qui d'ailleurs vont passer à tabac Charlotte à 2 mètres de Becky sans que l'autre elle intervienne. Elle sort du vestiaire après avoir parlé avec Becky et fait « Ah, salut, à demain !» Et l'autre lui tombe dessus, elle gueule à la mort et Becky... Bon, après tout, elles se détestent, elles l'ont dit. Donc, on va avoir un TLC match, mesdames et messieurs. Kabuki Warriors contre Charlotte et Becky. Becky qui a tenté la même que Charlotte. Je crois, Kyrias, que comme moi, tu n'avais pas trop aimé le fait que Charlotte ait tenu autant tête au Kabuki Warriors la semaine dernière.
J'ai du mal avec le booking de Charlotte en ce moment. Enfin, surtout son in-ring. Hein. J'ai l'impression qu'elle contre tout, elle laisse rien passer, quoi.
Ouais, ça,
par rapport à ses adversaires, elle est tout le temps bookée super forte et limite omnisciente par rapport à tous les coups qu'elle va recevoir, quoi.
Ouais, exactement.
Ça m'énerve un petit peu. C'est un ressenti. Hein. Après, elle est toujours aussi pro dans le ring, il n'y a pas de problème. Hein. Mais non, je trouve ça un peu poussif le côté Charlotte domine le monde, quoi.
Et Becky, est-ce qu'elle a dominé le monde ce soir?
J'aurais souhaité une autre fin, en fait. Plutôt qu'Asuka sorte une chaise, un petit beatdown un peu plus sévère, peut-être, sur Becky. Histoire de prouver que les deux étaient vraiment... les Kabuki Warriors étaient vraiment des menaces réelles pour les deux, quoi. Pour Charlotte et pour Becky. Donc, après, ça fait le taf, quoi. On va avoir un beau match à TLC. Je suis impatient de le voir, celui-là.
Et toi, Chris?
Ouais, moi, je suis assez enthousiaste, en fait. J'ai plutôt bien aimé le match. Bon, ce que j'aime pas, en fait, c'est un handicap match. Ça, c'est ça qui me défrise, quoi. Ça m'emballe pas plus que ça, les handicap match, quoi. Bon, ça se termine toujours de manière un peu bizarre. Donc, pas de surprise du fait que ça se termine en DQ, quoi. Mais moi, pour le coup, par contre, je suis assez hypé par ce match à TLC. Je trouve que là, il y a un super star power, là, quand même, mine de rien, Becky Lynch, Charlotte, face aux deux japonaises qui sont flamboyantes depuis qu'elles ont le titre par équipe. Et je suis assez, je suis assez enthousiaste, moi, pour le coup, là-dessus. De toute façon, je suis globalement pas mal enthousiaste sur la division féminine Arrow. Je trouve que Arrow, ça matche bien chez les filles et que c'est beaucoup plus cohérent que ce qui se passe à SmackDown. Et donc là où je rejoins, je sais plus lequel de vous deux qui a dit ça là tout à l'heure là, mais là par contre, ce qui était complètement con, c'est effectivement le segment dans le locker room avec Charlotte qui pétait la gueule à 40 cm de Becky et qui elle ne bouge pas, quoi. Ça, c'est vrai que ça, c'était quand même un peu too much, quoi. Mais pour le coup, ça a été un de mes moments sereaux, toute cette phase. Segment entre Becky et Charlotte qui se disent bien d'ailleurs on s'aime pas mais bon là on s'est trouvé un ennemi commun et tout, après un match derrière qui tient la route et puis après à nouveau un segment, j'ai trouvé que là tu vois il y avait du taf à la différence du divorce entre Rousseff et Lana et plein d'autres conneries comme ça. Au moins là, on s'est dit, ah, ils ont un peu taffé quand même.
Ouais, effectivement, c'était un espèce de second fil rouge avec deux, trois séquences backstage. Effectivement, au début, Charlotte, c'est Charlotte qui a proposé de faire un 2v2 et Becky qui a fait non, d'abord faire mon handicap match pour te montrer que moi je peux y arriver. Donc j'ai bien aimé effectivement le côté compète. Finalement, les deux n'y arrivent pas et là, effectivement, elles vont pouvoir se mettre ensemble. Donc effectivement, il y a une volonté de construire un petit peu d'un point de vue storyline. Scénario ce match, donc c'est tout à leur honneur. Bah, justement, l'autre gros fil rouge, on y vient enfin, je vous l'ai mis bien de côté depuis le début, c'est cette histoire là de Seth Rollins. Est-ce que il est de mèche avec AOP? Est-ce que Seth Rollins nous fait encore un coup par derrière? Est-ce qu'il a un plan B, un plan C, un plan D? Kevin Owens est là, il est interviewé, alors il y a plusieurs segments, il est d'abord interviewé, il dit que d'après lui c'est Rollins qui a fait en se demandé au AOP de l'attaquer, mais il s'en est réchappé puisque visiblement il était chanceux, il a réussi à s'évader, on n'a jamais su vraiment où AOP
où est-ce qu'il était.
Où est-ce qu'il était exactement, où est-ce qu'il était détenu, l'amiral m'avait informé en direct la semaine dernière là, de notre analyse qu'il avait tweeté en fait Kevin Owens genre 2 heures plus tard pour dire en fait c'est bon je suis sorti et donc on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Donc Kevin Owens a une mission pendant ce Monday Night Raw, c'est de retrouver AOP pour leur beauté cul et justement tu en parlais Chris, ils croisent le chemin de Rey Mysterio, ils se font un petit check, un petit câlin et Rey, j'ai beaucoup aimé cette interaction. Rey il fait si t'as besoin d'un coup de main n'hésite pas, et l'autre il dit non mais t'inquiète j'ai pas besoin de ça, il fait non mais je parlais pas de moi, et là il lui sort donc sa barre de fer et qui tend à Kevin Owens, et Kevin Owens prend la fameuse barre de fer qui devient tout d'un coup une espèce d'objet iconique de Rey Mysterio qui est totalement hardcore, maintenant il a une phase hardcore Rey Mysterio, ça je pense que ça doit te plaire ça Chris, ça, cette phase de Rey Mysterio complètement hardcore qui se balade avec une barre en fer.
Ah ouais, non mais le Rey en ce moment il est sur un petit nuage là, je sais pas ce qui se passe là, après avoir lutté pour le titre mondial, derrière il chope le titre US, parce que quand même, mes grandes surprises au lendemain du Survivor Series, quoi, c'était qu'il aille choper le titre US. J'ai l'impression que la WWE, elle a décidé d'offrir un dernier run en or massif au Rey Mysterio, et que... Moi, je vois ça avec plaisir, hein, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, tout ce truc-là.
Et, ouais, il est impliqué dans pas mal de segments chaque semaine.
Ouais, en ce moment, là, il a le vent en poupe, là, et c'est fou comment il est présenté. Il est présenté fort, mais en plus, il a des interactions avec tous les autres babyface du roster. Et je trouve que c'est sympa, quoi, parce que bon, lui c'est un Mexicain qui parle bien l'anglais, donc tout de suite ça aide, quoi.
Ouais. Bon, on reverra. Ouais.
On parlait de la star latino tout à l'heure, mais voilà, je crois que le WWE, il est là, hein, c'est que la star latino de la WWE, même à 44 ans, bah ça reste encore et toujours le Rey Mysterio.
Et pourquoi pas, tant qu'il est là, autant en profiter, effectivement, il a retrouvé un second souffle, hein, clairement là cette année, donc en plus. C'est pas, on le retrouvera tout simplement dans le main event. C'est lui qui aura les rênes du main event. Mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, Kevin Owens continue sa lancée. Il rencontre backstage, il croise le chemin. Il a croisé le chemin de Mojo Rawley qui fait ouais, moi je les ai vus, ils sont partis par là. Ah bah non, ils sont partis par là. Donc, il commence à se foutre de sa gueule. Donc, le Canadien, il lui décroche une énorme baffe dans la tronche. Ce qui nous offre un peu plus tard un segment que j'ai trouvé super entre Kevin Owens et Sami Zayn, puisque Sami Zayn a dorénavant, comment il appelait ça, il bénéficie d'une sorte de wildcard, puisqu'il a une managerial licence ou position, je ne sais plus, enfin voilà, il a un rôle de manager et du coup il a une espèce de badge où il a accès à tous les shows à tout moment. Donc il y a une espèce de passe d'armes un petit peu entre Kevin Owens et Sami Zayn qui lui explique, écoute, c'est pas cool ce que t'as fait à Mojo, je te connais, si tu veux en rester là, il suffit de t'excuser auprès de Mojo Rawley, pose cette barre en fer tout de suite. On va en quitter là et en rester là. Évidemment, Kevin Owens ne veut pas en rester là. Il tabasse Mojo Rawley plutôt, pardon. Et Sami Zayn qui décampe. C'était plutôt agréable, là, ce petit moment de retrouvailles entre les deux. Kyrias, qu'est-ce que tu en as pensé?
Je veux la même licence que Sami Zayn pour aller dans tous les shows aussi. Que manager ou n'importe quoi. Non, c'était plutôt bien amené. Zayn et Owens, ils se connaissent comme personne, quoi. Donc ça roule comme sur des roulettes. Et c'était très très agréable ce moment avec Zayn et Mojo Rawley. On sait toujours pas plus que ça pourquoi il est à l'écran, mais il est à l'écran.
Ouais. Alors j'étais un peu vite en besogne parce que juste avant, en fait, il y avait un segment un peu plus long que ça. Juste avant, en fait, il y avait déjà Seth Rollins et Kevin Owens qui ont discuté. Alors Seth Rollins, voilà, il dit ouais, t'inquiète pas, moi, je suis pas avec EOP, ça me concerne pas. Kevin, c'est énorme, c'est encore un piège, tout ça. Vous allez m'attaquer. Et EOP arrive et Seth donc. Part, tout simplement, et EOP, je sais plus s'ils sont là. Ah non, ils arrivent vers le ring à ce moment-là. Et du coup, Kevin promet, dit qu'il va venir chercher EOP et qu'il va retrouver Seth. Avec EOP qui fait une espèce de promo, en quoi on comprend rien. Et c'est seulement à ce moment-là que Sami Zayn arrive. Vous voyez, il y a quand même un gros, gros fil rouge pour Kevin Owens, qui est un petit peu l'homme fort de la soirée. Et tout ce petit monde va finir par se retrouver puisque Kevin Owens finit par tomber sur le gros SUV de AOP et au moment où il l'ouvre, il se fait attaquer. On a entreaperçu une ombre à l'intérieur du SUV, il se fait tabasser par AOP et l'ombre, la silhouette se révèle. C'est évidemment le mastermind, le maître de l'architecte Seth Rollins qui apparaît avec sa veste en cuir. Tabassage de Kevin Owens. C'est donc bien Seth Rollins qui était... Alors, il nous les explique un peu plus tard, tout son schéma, pourquoi il en est arrivé là. Il prend son micro, il nous explique que finalement, il l'a fait parce que ce sont les fans qui l'ont poussé à le faire. Il a tout fait pour obtenir, faire plaisir aux fans finalement. Et c'est vrai, il a raison, il a battu. Et il faut le rappeler, il a battu quand même Brock Lesnar deux fois cette année. Il a ramené le titre à Monday Night Raw.
Eh ouais.
Eh ouais. Il a tenu parole. Les gens ont fait de Seth Rollins leur porte-étendard mettre fin au règne de terreur de Brock Lesnar. Il l'a fait et en échange, il a reçu quoi ? Des huées, des sauts de merde sur la tronche. C'était pas de la pâté pour chien, mais presque. Et du coup, il s'est retrouvé un peu poussé par le public à aller du mauvais côté obscur de la force. Et du coup, maintenant, il est vraiment avec EOP. EOP est là. Il part. Alors que Kevin Owens, lui, se fait tabasser, il me semble, et qui finira dans l'ambulance. Kevin Owens repart en ambulance. Alors, est-ce qu'il a raison, cette Rollins ? Est-ce que c'est à cause de nous ?
Vas-y, Chris.
Non, vas-y, Kyrias, à toi l'honneur.
Non, je vais juste faire un petit détail. Les ambulanciers ont bien galéré à remonter Owens dans l'ambulance. Ça m'a fait marrer.
C'est vrai, c'est vrai.
Et tu voyais qu'il y a une Owens qui essayait de pousser lui aussi, qui essayait d'aider.
Vas-y, Chris, voilà. Je t'en prie.
Non, mais moi, en fait, je rejoins ce que disait Yerem, c'est-à-dire que. Moi, je trouvais que Rollins avait raison pendant sa promo. Il a dit des choses très justes, qu'il s'était battu toute l'année, qu'il était un champion, qu'il était là lundi après lundi après lundi, parce que bon, on peut quand même signaler au peuple du catch, au peuple de catch-up, que on en est à 3 lundis consécutifs sans voir le champion de Raw. Hein. Il est même pas évoqué, quoi. S'il n'y a pas un catcheur pour en parler, il est même pas évoqué, le mec. C'est-à-dire, Lesnar, il est reparti en mode fantôme, quoi. Et moi, j'ai trouvé que la promo de Rollins, elle tenait la route. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté auparavant. Je crois que on en avait longtemps parlé avec Ringside. Mais finalement, moi, je suis assez content de revoir Rollins en heel parce que je le trouve très bon en heel. Et je trouve qu'il dit des vérités, cet homme. Et j'ai trouvé que ce qu'il a dit à Rose était complètement cohérent, dans le sens où voilà, le public a commencé à lui balancer des sauts de merde et tout ça, alors que pour quelle raison finalement personne ne sait véritablement. Et que bah voilà, et que s'il tourne du côté obscur de la force, bah c'est un peu parce qu'il y a été un peu forcé, quoi. Hein, c'est un peu à coup de pied au cul, quoi. Et moi je trouve que il avait raison, cet homme.
Pas vous. L'architraître, enfin.
L'architraître. Oui, l'architraître est de retour.
Enfin, il est de retour, oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, surtout pour Rollins en lui-même, son personnage commençait. Effectivement, et dans son discours de Hill, bah, il dit quelques vérités quand même, comme tu le fais remarquer. Donc non, c'est bien, moi je suis content aussi de ce résultat.
Ouais, et puis je trouve que ça va mieux avec, tu vois, avec sa voix. Rollins, il a un peu un ton un peu nazi, machin, etc. Et en face, il y avait des moments où je trouvais que ça passait pas, quoi. Alors que quand il est Hill, eh ben, je trouve que ça passe super bien, quoi. Quand il en met plein la gueule au public, là, quand il est sur la rampe et qu'il en met plein la gueule au public et qu'il vous fait tout chier, vous n'avez pas arrêté de me balancer des sauts de merde, alors que j'ai pas arrêté de vous dire que je me battais pour vous, que j'étais là tous les lundis, j'ai battu deux fois Lesnar, mais il vous faut quoi de plus, bande de cons?
C'est vrai, ça. Il vous faut quoi de plus?
Bah ouais, plus. Sérieux, quoi. C'est quand même hallucinant. Finalement, ouais. Il a... Est-ce que Rollins, c'est pas un heel turn par frustration, finalement?
Alors, qui serait frustré?
Bah, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu de Rollins, il y a un peu du public qui n'adhérait plus à son personnage de face depuis quelques semaines.
Ouais, bah oui. Le problème, c'est effectivement ce personnage de babyface qui n'arrivait pas à tenir. Pour plusieurs raisons, tout l'histoire, lui, clairement, t'avais l'impression que il arrivait pas, soit il arrivait pas, j'en sais rien, pendant les réunions de booking, de voilà, le mec a posé ses couilles sur la table et dire non, mais attendez, c'est quoi là, cette histoire ou ces promos là que vous me faites, vous me sortez, moi je peux pas sortir ça, je suis le champion, je peux pas me plaindre toutes les semaines, parce que c'est ça qui cassait les couilles à tout le monde, c'est que toutes les semaines, il nous balançait ses états d'âme. Ouais. Il était à chaque fois obligé de justifier son comportement, donc on tournait en rond. Et alors, ce qui était terrible, parce que c'était un fighting champion. En tout cas, il a eu ses périodes effectivement de fighting champion, mais il nous prenait trop pour son psy, quoi. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui a saoulé les gens, c'est que les gens veulent pas entendre un babyface, un top babyface gémir et joindre ou partager ses états d'âme ainsi, quoi. Pas après avoir battu Brock Lesnar. T'as battu deux fois Brock Lesnar, et ben tu t'es pas là à te prendre la tête sur qui tu es, où tu vas, d'où tu viens. Non, il faut agir en tant que champion conquérant. Et c'est là où ils ont aussi failli, c'est qu'ils ont pas réussi vraiment à embrayer sur une grosse storyline de mec. Parce que c'est quand même terrible ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a eu un mec qui a battu un catcheur, qui a battu deux fois Brock Lesnar la même année. Pour le titre suprême, dont une fois très très clean. La deuxième fois, quand même, il a battu Brock Lesnar parce que le mec était plus fort. Il était plus fort que Brock Lesnar. T'arrives à faire ça, et après, tu fais quoi? Tu sais pas.
Tu sais t'as pas battu quoi le faire. Boss de fin, quoi.
Ouais, mais t'as battu le boss de fin, mais sauf que malheureusement, à WWE, c'est pas genre le jeu est terminé, et puis tu ranges ta manette et c'est terminé. Et après, il faut continuer d'écrire quelque chose. Et en fait, bah, solution WWE, ah bah, on sait pas trop quoi, on va le faire parler, ah, puis tiens, on va lui mettre notre nouveau gros méchant dans la tronche, et il va se faire bouffer, et puis, finalité de tout ça, on se retrouve à devoir le heel turner. C'est quand même fou de se dire qu'un babyface a réussi à battre Brock Lesnar deux fois, dont une fois hyper clean, ce qui n'était jamais arrivé, si tu mets les cas Goldberg et tout de côté. Vraiment dans un match compétitif, très intelligent, il avait réussi à disposer de Brock Lesnar, et que juste après, t'arrives tellement pas à lui donner quoi que ce soit que tu le fasses heel turner, quoi. Enfin, c'est le truc qui me... Je pense c'est un des trucs que jamais j'arriverai à comprendre comment la WWE n'a pas réussi à construire un programme de top babyface, même si ça dure que 6 mois, parce que les choses vont vite, quoi, mais... de top babyface pour Seth Rollins, après avoir réussi à battre Brock Lesnar, c'est dommage. Le faire vaciller avec l'arrivée de The Fiend, ok, mais tout ça arrivait tellement vite. Et du coup, dans la même année, le mec, il a quand même battu Brock Lesnar deux fois et il se retrouve à faire un heel turn poussé par les fans qui ont fini par le détester alors que le mec avait réussi à faire ce que les fans voulaient qu'il fasse. Donc, je sais pas si ça... En fait, je ne sais pas si ça en dit plus sur la WWE ou si ça en dit plus sur le public. Hein.
Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi sur l'analyse, mais par contre, je pense que Seth Rollins c'est meilleur en heel qu'en...
Oui.
Je crois que le public en avait marre de Seth Rollins en face parce que beaucoup de gens sont assez lucides sur les limites de Seth Rollins en top babyface. Il n'est pas... c'est comme on le dit de temps en temps à catch-up, hein, sur le nom de Seth Rollins qui pose des culs sur des sièges à la WWE. Et que ça, c'est un vrai problème pour la WWE. Elle a du mal à installer, à Raw en tout cas, parce qu'à SmackDown, c'est un peu différent à mon avis. Mais à Raw, elle a du mal à installer un top babyface vraiment vendeur. Peut-être que c'est peut-être ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec Kevin Owens d'ailleurs, qui semble être beaucoup plus dans la vibe auprès du public en tant que babyface que ne peut l'être Seth Rollins. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça.
Ah bah clairement, l'heure actuelle, et c'est bien qu'ils aient cette rivalité-là, c'est que avec ce nouvel alignement, en soi, je suis d'accord, hein, Seth Rollins est beaucoup plus naturellement armé et disposé à être un super heel qu'un super face. Et à l'inverse, Kevin Owens, on a beau vanter ses mérites en tant que heel, il a un potentiel de babyface par rapport en termes de connexion avec le public qui est immense, voire illimité. Et de se dire qu'à l'heure actuelle, à Monday Night Raw, le top heel, c'est potentiellement c'est Seth Rollins et le top face, ce serait Kevin Owens. Là, tu te dis, tout est aligné. Enfin, ouais, c'est la bonne balance pour les deux.
Non, mais ouais.
Oh, totalement, oui. Kevin Owens, avec son humour particulier.
Son humour canadien.
Ouais. Non, il arrive à se mettre dans la poche tout le public à chaque fois, qu'il soit heel ou face. Et du coup, là, pour la première fois, on le voit en construction pour être un top face. Ça marche bien. Et à l'inverse de Rollins, il trouve sa place aussi maintenant, aussi peut-être de top heel, ce qui n'est pas pour lui. C'est pas pour lui. J'arrive pas à trouver mes mots, pardon.
Ouais.
Ben,
ouais,
ça lui va bien, quoi. Ça colle bien au personnage aussi. Ça lui colle mieux, je pense, à la peau qu'un top babyface pas soigné par l'équipe de la WWE.
J'aimerais avoir l'avis d'un Québécois là-dessus.
Qu'est-ce qu'il pense de la situation, la géopolitique interne à la WWE?
Tout à fait.
Bon, messieurs, on va rapidement parler de ce vrai, enfin, du main event, puisque tout ça n'a pas fait l'objet du main event. Non, c'est bien Rey Mysterio qui a eu droit à son petit match de championnat face à AJ Styles qui veut récupérer son titre. Mais malgré tous ses efforts, AJ Styles n'y arrivera pas puisque Orton est toujours dans les parages. Il arrive comme un serpent, mais il ne peut pas placer son RKO. AJ Styles l'a bien vu arriver, c'était assez drôle, j'ai trouvé, de voir Orton pris la main dans le sac, genre « Oh !» Ah bah merde, bon bah, je fais quoi maintenant? Bon bah je me barre, il sera pour la prochaine.
Est-ce qu'il ne l'a pas feinté le RKO quand même?
Non, il est entré sur ring et en fait AJ Styles s'est retourné à ce moment-là et du coup il l'a vu. Et du coup il est parti. Et du coup Rey Mysterio en a profité pour faire un petit paquet là, bien verrouillé pour conserver le titre. Et visiblement, on était un petit peu à la bourre sur les horaires puisque ça a vite coupé sur le visage hilar de Randy Orton qui aura son match. Donc, AJ Styles pourra se venger ce dimanche face à la vipère. Rey Mysterio qui fait le main event de Raw, voilà, qui a fait plaisir, j'en suis sûr, à Chris.
Et ouais. Bon, mais c'est bien. C'est bien que Rey conserve son titre voilà, à la fin de Raw. Alors, par contre, vous allez peut-être pouvoir m'en dire plus parce qu'il y a un truc que j'ai pas trop pigé, c'est qu'est-ce qui se passe pour Rey Mysterio à TLC du coup?
Un open challenge. En fait, ça devrait être un vrai pay-per-view ça.
Qui ouais, ouais.
Pay-per-view open challenge.
Voilà.
Où t'as que la moitié de la carte en fait. Que d'un côté. T'as le côté gauche qui est rempli, le côté droit c'est open challenge.
Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal une fois dans l'année.
Bah ouais.
Moi, c'est ça, un, ouais. Un côté assez surprenant, quoi.
Ça, tu mets ça sur le network, comme ça, Kyria se donne une bonne raison de le réactiver son abonnement. Pas de contender particulièrement visible pour Rey Mysterio.
Ouais. Et donc, il va y avoir. Parce que c'est la suite de ma question, c'est que donc on va avoir Edge Styles versus Randy Orton.
Est-ce que c'était confirmé ce match?
Bah justement, de ce que j'ai regardé, autant j'ai trouvé l'Open Challenge pour l'Euro Tactique, j'ai rien vu concernant Mysterio ou un Edge Styles versus Orton. Donc je sais pas. La carte a... Là, en tout cas, moi, la carte que j'ai sous les yeux là, elle est pas complète.
Ouais, c'est assez bizarre. Puis faire une triple frite, ce serait un peu.
Pas mentionné non plus là sur ma source.
Faut qu'on trouve d'autres sources, c'est pas possible.
Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. On n'arrive pas à avoir une carte complète alors qu'on est à quelques jours du pay-per-view. C'est pas normal ça.
Heureusement qu'ils ont Twitter pour booker des matchs de 2 minutes avant le début du pré-show. Hein.
Ouais. Parce
que là, là, il y a quand même un paquet de matchs. Soit c'est nous qui les imaginons, quoi. Soit ils sont vraiment annoncés au dernier moment. C'est assez, assez terrible là, le peu de temps qu'ils s'accordent eux-mêmes pour booker un pay-per-view à grosse tipu. On y revient une fois de plus. C'est un peu tordu, quoi. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce main event avant qu'on touche au mot de la fin?
Sur ce main event, non.
Non.
Un bon petit main event, voilà. Oui. Pour conclure, donc ce Go Home Show, comme l'a si intelligemment signalé Chris, on a quelques jours maintenant de ce pay-per-view TLC. C'était donc pour nous l'heure du mot de la fin. Messieurs, si vous voulez bien partager votre top, votre flop et votre note, Monsieur Kyrias, c'est à vous la parole.
Alors mon top, je pense que je vais le donner pour le turn de Rollins hein, quand même. Hein. Parce qu'il arrive à point. Heureusement, enfin, c'est là et l'architraître peut maintenant être sous le feu des projecteurs. Mmh. Mon flop, je pense que je vais le mettre. Je pensais le mettre au départ sur l'absence de Lesnar et de la ceinture, mais je vais plutôt le mettre en fait sur vu que ça fait longtemps que je me suis pas exprimé là-dessus. Je vais plutôt me mettre sur l'absence de GM sur les émissions, en fait. Ouh. Et notamment sur ce Raw. Je trouve que ça manque de quelqu'un qui puisse donner des décisions de booking à l'écran, quoi.
Ouais, ça manque d'un William Regal, quoi. Hein. Ça manque
j'allais dire la même chose. Ouais, Chris, on est connecté.
Ah, mais ouais.
Parce qu'en plus, William Regal, ce qui est bien, on le voit même un peu moins souvent qu'avant, mais tu le vois toujours qu'il faut prendre une décision, poser ses couilles, mettre une grosse stipulation et mettre over un événement pay-per-view qui arrive. Là, c'est vrai que finalement, la preuve, on est là à devoir regarder sur les sites internet, alors c'est quoi la carte pour ce pay-per-view? Alors
que
tu fais, effectivement, tu prends un GM, t'en invites. Alors, toi, c'est marrant quand même. On en avait tellement marre de ces GM là, chelous, on voyait à toutes les sauces, matin, midi et soir, avec les mecs de la McMahon Family et tout. Mais quand il n'y a plus personne pour prendre des grosses décisions, on est là à devoir checker les sources qui ne sont pas toujours fiables ou alors qui sont des sources un peu sèches pour essayer de dire, attends, dans 4 jours, j'ai un pay-per-view, c'est quoi les matchs? Attends, il y a un problème, effectivement. Là, tu lances un gros sujet juste au moment de clôturer l'émission, là, Kyrias. Mais c'est vrai que tu te dis, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est genre, là, ça manque d'un mec qui arrive et comme un mec comme William Regal, quoi, effectivement. Un mec qui arrive et qui fait « Alors, ce dimanche, vous voulez vous mettre sur la tronche ? Eh ben, je ne vois qu'une façon de mettre un terme à tout ça et de décider qui est le meilleur. Ce sera, non pas un wargame, mais un TLC. » Match, voilà, dans un match de 60 minutes où tout est permis.
Et
la foule est en délire, quoi.
Et du coup, là, j'ai la carte sous les yeux, la carte officielle pour là de ici où il y a 7 matchs annoncés.
Déjà.
Alors là, entre Roman Reigns et King Corbin, alors ça me fait halluciner. Hein. Ils vont aller décrocher quoi dans un tir? Tu montes l'échelle normalement et tu vas décrocher quelque chose.
Donc ils vont la pâtée pour chien.
C'est bizarre, je m'attendais à cette réponse.
Un bon d'achat pour Pedigree Pal.
On a un Bray Wyatt versus The Miz, mais qui est annoncé comme, comme quoi le titre n'est pas en jeu. C'est un single match, le Bray Wyatt versus The Miz. Alors là, il va falloir qu'on m'explique. Hein. On a donc le Tag Team Championship de SmackDown avec les Revival et New Day. On a donc un single match avec Aleister Black et Buddy Murphy. On a donc le Tag Team Championship des femmes avec les Kabuki Warriors et Charlotte Flair et Becky Lynch. Rusev versus Bobby Lashley qui sera un tables match. Et on a un Raw Tag Team Championship qui sera donc un Open Challenge. Et voilà, vous avez les 7 matchs de TLC.
Ouais, donc ouais. Ils y arrivent quand même, hein. Ils y arrivent quand même, mais il y a tellement de ceintures à défendre qu'il suffit de pas grand chose, effectivement. Mais c'est un flop sorti de nulle part, mais c'est un bon flop. Fallait le placer, tu l'as fait.
Et donc, ma note, je vais mettre pour ce Go Home Show qui n'en était pas 3-1, en fait. Je vais mettre un 2-25.
Et ton top, c'était quoi ton top?
Le Turn de Rollins.
Ah, excuse-moi, le Hill Turn de Rollins, oui, exact.
Ouais. Ouais, toi, Chris.
Mon top, je vais le donner à Kevin Owens. Même si j'aurais pu le donner, par exemple, au match féminin. J'ai bien aimé aussi tout le segment féminin. J'ai bien aimé. Je vais le donner à Kevin Owens parce que j'ai trouvé Kevin Owens génial tout au long du round. Il avait, comme tu l'as dit, Irem, il a été effectivement le fil rouge de l'émission. Et avec Kevin Owens, au moins, quand il est balancé comme ça en fil rouge, on est sûr qu'il va y avoir de la bonne promo, qu'il va y avoir de l'action. Avec lui, il se passe toujours quelque chose, et ça, j'adore avec Kevin Owens, quoi. Donc, je lui donne, sans hésiter, je lui donne mon top. Et mon flop, je vais le donner à Brock Lesnar, parce que moi, j'ai l'impression que ça fait tellement d'années qu'on dit ça, mais là, franchement, ce lundi, je me suis dit, bon, allez, là, quand même, on va le voir, il va se passer quelque chose, on va voir Eman, ou il va se dire, on va parler du titre majeur de la Fédé quand même, quoi. Non, on n'en aura même pas parlé, quoi. Donc vraiment, Lesnar, moi, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol d'avoir un fantôme en champion inexistant, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment triste, ça.
Oui, il pourrait juste passer au moins deux minutes, quoi, dire qu'il est là et...
Ouais, je sais pas, ouais, faire quelque chose.
Finalement, est-ce qu'on n'a pas tout perdu dans cette histoire? Parce que c'est pire qu'un retour au statu quo, c'est-à-dire que malgré la croisade de Seth Rollins qui a mené effectivement à sa prise de titre par deux fois, on se retrouve avec à nouveau, et c'est de l'avait dit, avec Brock Lesnar, champion fantôme, mais en plus on a perdu notre chevalier Seth Rollins qui est passé de l'autre côté de la force, donc on a tout perdu.
Ah ouais, là c'est la totale, là. C'est la
complète. Bravo les fans.
Voilà, merci,
bravo,
merci.
L'univers.
Merci l'univers de la WWE. Et puis ma note, écoute, c'était pas bien terrible. Il y a eu pas mal de matchs, mais malheureusement, entre 2 et 4 minutes, quoi, quand c'était pas moins que ça, même quasiment pour, je pense, à Rowan. Pour moi, c'est Owens et les filles qui ont un peu sauvé le niveau. Allez, je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre un 2,5.
Ok, effectivement.
Et encore, je rajouterai un mot parce que quand même, je suis en train de réaliser là. Mais mon flop, quand même, j'ai envie de mettre un co-flop parce que j'ai vraiment envie de mettre un flop à la procédure de divorce de Lana et Rousseff parce que là, vraiment, on n'est pas loin de toucher le fond quand même. Là.
Ouais, bah tu sais quoi, je vais le faire pour toi.
Merci, Jérém.
Voilà. Ah, je suis là pour ça. Donc mon flop, c'est le même co-flop que Chris, voilà. beaucoup, beaucoup trop long. Cette tête de Jerry Kingler, j'ai envie de prendre une épingle et de lui éclater la tête, quoi. Tellement elle est prête à exploser. Il m'énerve avec son t-shirt, là. Je sais pas, qu'est-ce qu'il raconte.
Insupportable.
C'est pas possible de se dire que ce mec-là est là pour aider les petits jeunes à progresser, mais oh là là, mon Dieu.
Le seul avantage quand Lawler il est comme ça, Samoa Joe, je le trouve très bon aux commentaires. Et heureusement qu'il est là, d'ailleurs, ces derniers temps.
Ouais.
Le niveau, là.
Ouais, super Samoa Joe. Je sais pas si je vais déjà donner mon flop pour son travail de commentateur, mais j'aurai l'occasion de le faire, puisqu'il a l'air d'être là pour rester quelques mois, et tant mieux pour nous. Bah écoutez, sinon, à des tops, j'ai plein de petits tops à droite, à gauche. De la petite promo de Drew McIntyre, la petite promo de Sami Zayn, qui est toujours au top, là. C'est un des meilleurs acteurs de la WWE à l'heure actuelle. Mais tu sais quoi, je vais prendre ce top, là, tu m'as soufflé un petit peu à l'oreille tout à l'heure. C'est le fil rouge des filles, t'as donné ton top un peu au fil rouge à Kevin Owens. Je vais donner ce petit souci de bien booker. Tout au long d'un weekly avec ses différentes interactions avec Charlotte et, et Becky Lynch, où effectivement elles sont en mode compète, elles se détestent, mais on nous raconte une histoire, on nous a raconté une histoire quand même, où finalement bah, elles n'ont pas d'autre choix que de se mettre ensemble. Donc voilà, c'est cette volonté. Voilà, de, on en a, il y a de ça hein, dans Raw de toute façon. Bah, en même temps, il y a 3 heures, donc il faut bien les remplir, mais il y a des bonnes intentions. Il y a des bonnes intentions. À côté de ça, dans l'exécution, c'est pas toujours extraordinaire. Et c'est pas une bonne intention de nous foutre un divorce, 15 minutes de divorce en début de show, mais il y a voilà, une volonté de, d'écrire vraiment des histoires dans chaque épisode. Et ma note, bah, j'ai préféré ça au SmackDown qu'on a analysé ensemble. Un bon 3 pour moi.
Ouais.
Il y a eu des... Franchement, il y a eu du bon catch, il y a eu des bons segments, des bonnes promos. Voilà, après, 3, c'est pas 4, hein, attention. 3, c'est 6. 6, c'est 12. 12 sur 20, c'est pas non plus. Attention, hein. Ça paraît c'est... beaucoup, 3, mais c'est pas non plus. Voilà. Un petit 3, donc je précise, un petit 3 sur 5 pour moi.
je voudrais qu'on ait une pensée émue quand même pour certains employés de la WWE.
Ah oui.
Puisque nous ont quitté Sin Cara, The Ascension et surtout Luke Harper qui nous ont quitté.
Ah.
Et là, j'avoue que moi, ça a fait du mal à mon petit cœur, hein, surtout le départ de Luke Harper. Hein, pour moi, ça c'est vraiment une vraie déception, quoi, de voir ce gars-là qui pour moi était l'un des meilleurs big men de WWE. Et je lui souhaite que du bonheur dans sa carrière future à la IW.
Bizarre ouais, parce que il me semble que c'était sur SmackDown, dans la petite photo, enfin dans la petite image qu'on a vue de la Wyatt Family quand elle est évoquée, il y a pourtant Harper qui est là.
Ouais, mais c'est le passé. Hein. Ça y est, c'est fini ça, hein, mon bon Kyrias.
Ah ouais, là ça y est, c'est officiel. Hein. Il est vraiment, vraiment parti, quoi. Donc on va pas le voir tout de suite à la AEW. On va respecter. Mais très franchement, je serais quand même extrêmement surpris que le bon Luke Harper, qui va reprendre son nom donc de Brody Lee, je serais extrêmement surpris qu'il atterrisse pas dans les filets de la fédération de Cody Rhodes et des Young Bucks. Hein.
Ah, tu crois, hein, peut-être.
Ah ouais. Ouais. Bah, vous le voyez, aller où?
Ah, je sais pas. Il était pas bibliothécaire lui avant.
À la médiathèque de mon quartier.
Bah non, oui, pourquoi pas les AEW. Énorme potentiel, ce mec-là, qui a jamais été pleinement exploité, justement. Ah, il a eu quand même pas mal de blessures, hein, je crois. Hein,
oui.
Qui l'ont pas mal ralenti.
Il a traîné pas mal de blessures, mais mine de rien, il aura fait son chemin. Là, oui. Un clan marquant. Il a été champion par équipe, Wyatt Family, ensuite en Blood John Brothers. Il a été un champion intercontinental.
C'était incroyable ça.
Avec un des meilleurs ladder match des.
Face à Dolph Ziggler.
Face à Dolph Ziggler, quoi, qui a pour moi été un des meilleurs ladder match des 10 dernières années. Moi, j'adorais Luke Harper, quoi. Moi, vraiment, là, je suis pas objectif parce que vraiment, il faisait partie des catchers que je kiffais, quoi. Et vraiment, quand même, un pincement au cœur de voir qu'il sera plus là. Il sera plus là dorénavant. Bon, Sin Cara, c'est une autre affaire.
On va pas s'épancher sur le sort de Sin Cara. Moi, une petite pensée aussi à The Ascension qui, quand même, avait marqué leur empreinte NXT. Voilà, c'était à une époque où NXT n'était pas encore tout à fait NXT tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais voilà, pareil, un petit peu du gâchis pour ces mecs-là aussi qui auraient pu tout à fait continuer à faire les beaux jours de la low card de la division tactique.
Alors, il y a qu'une seule question qu'on peut se poser. Au final, Sin Cara, c'est un personnage, c'est pas un catcheur, puisque sous le masque, c'était Unico. Et Unico, d'après les sources, il va retourner certainement dans une fédé américaine. Il est annoncé du côté de la AAA ou du côté de la CMLL. Mais par contre, pour le coup, le personnage Sin Cara, lui, il a pas de raison d'être viré. Alors, est-ce qu'ils vont retenter un run avec ce personnage-là, ou est-ce que c'est l'abandon définitif? Je ne sais pas.
Bon, là, je sais pas si c'est une question qui vaut d'être posée, mais qui a le mérite d'être posée, mais on verra. Ce sera la surprise. Tant de suspense à WWE. Une première, voilà, c'est le temps des charrettes, là, ça y est.
Les départs. Ouais, c'est parti.
Bon, mesdames et messieurs, aussi à nous de partir, là, Chris, je sais que tu veux nous... Ouais. Si je te laissais le micro ouvert, tu nous ferais une heure, là, sur le Carper, et à raison, parce que c'était un grand homme, et c'est toujours un grand homme.
Oui, on fera peut-être un récap, sa vie, son œuvre, à 4 heures.
Bon, ben, je te laisse faire le brouillon de... Allez, je vous rappelle, vous pouvez nous suivre un catch-up, le podcast qui résume et analyse les shows de la WWE sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur toutes les plateformes de podcasts, sur YouTube également. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce GOM show, votre top, votre flop, votre note, les réseaux sociaux évidemment, catch-up CDC, Twitter, Facebook, Instagram et le Discord. Le lien est dans la description. Kyrias, je te remercie pour ta présence.
Et moi, qui vous remercie de votre accueil.
Chris, je te remercie et encore désolé pour Luc.
Ah, je vais essayer de m'en remettre. Merci voilà. À toi, Irène, d'être si compatissant.
Écoute, je vais couper le micro pour que tu puisses pleurer en silence, sans contenter. Bon, et d'ici là, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la dernière ligne droite, c'est-à-dire l'analyse du dernier SmackDown avant ce TLC. Qui bah, finalement est une carte déjà bien remplie, puisque Chris a été vérifié. Il y a déjà 7 matchs, donc bah, la WWE a encore fait une fois son travail, quoi qu'on en dise. Rendez-vous à très bientôt et on vous souhaite d'ici là à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut Kyrias, salut Irem, salut peuple de catch-up. Eh non, on n'a pas les moyens de se faire des voyages à Chicago pour aller voir les Survivor Series. Excuse-nous, nous, c'est
ça. Ça y est, attends.
Hein ? Faut pas déconner. Hein. Pour mettre des pancartes botchées, quoi. Donc,
Oh là ! Ça tire.
Oui, oui, oui.
Ça tire à balles réelles, gars.
Quatre tapes le podcast qui trotte pire top 4, hein. Ça va pas du tout, ça.